Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Face à des comportements incohérents, autodestructeurs, des vies désespérées qui ne trouvent aucun fil conducteur, que faire sinon penser que très loin au fond du cœur, de l'esprit, de l'âme d'un enfant, se trouve une blessure secrète qui ne cicatrise pas ? C'est ce message que l'on peut trouver dans ce livre plein de tumultes, de fureurs et de fuites, qui raconte le chemin jonché d'aspérité d'une femme en quête de sens. Ce roman s'intitule « Voir ailleurs qui je suis ». Il est paru aux éditions Passifort et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Elisabeth Rollin. Elisabeth Rollin, bonjour.
Bonjour.
Alors, oui, c'est votre deuxième roman, j'ai lu ça. Le premier a été écrit en 2014. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
Alors, je suis très lente à l'écriture. Hein. Je ne me consacre pas qu'à ça. J'ai beaucoup d'autres activités.
Oui, il me semble qu'entre autres, vous avez une activité professionnelle.
Tout à fait, j'ai une activité professionnelle. Et puis, j'ai d'autres hobbies aussi à côté qui prennent du temps. Voilà, je ne me contrains pas. Voilà, j'écris quand ça vient et quelquefois il faut du temps. Et donc je laisse ce temps s'imposer et se poser.
Alors ce roman est violent, cru parfois, dérangeant en tout cas. Votre personnage Angèle ne cherche pas à plaire. Qui est Angèle ?
Angèle, c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit hein, tout à l'heure dans l'introduction, qui a une blessure cachée, puisqu'effectivement, dans son entourage, quasiment personne, à part Ellie, sa meilleure amie, n'est au courant de son passé.
Elle est secrète.
Elle est complètement secrète et elle refuse absolument qu'on s'approche d'elle, qu'on essaie de rentrer dans son intimité. Il y a une espèce de no man's land autour d'elle qu'elle défend farouchement et dans lequel elle interdit toute intrusion. Donc elle est pourtant entourée de personnes qui sont plutôt bienveillantes
oui.
Et qui ne demandent qu'à lui apporter
à l'aider,
tellement, oui. Mais oui. Dont elle n'a pas forcément conscience au début du roman.
Oui. Parce qu'elle a en fait une vie chaotique entre l'alcool, une sexualité débridée, une vie qui n'a aucun sens, aucun intérêt. Elle le sait, visiblement elle le sait.
Elle le sait, mais c'est une sorte de refuge qu'elle a trouvé pour éviter d'affronter tout simplement les vrais problèmes qui se posent à elle et qu'elle ne veut pas résoudre ou qu'elle a peur de résoudre.
Oui, alors on parlera de ces problèmes, parce qu'à un moment donné, petit à petit, les choses se dévoilent. Il y a un point d'ancrage, un bar. Un bar, c'est un refuge illusoire, hein, on s'en doute. Elle a des rencontres de bar, c'est qui sont tristes à pleurer aussi, des gens paumés comme elle.
Oui, tout à fait. C'est un bar où elle va en soirée et où elle reste une bonne partie de la nuit et où elle rencontre effectivement toutes sortes de personnages. Mais enfin, son intérêt, elle, c'est pas d'avoir une relation suivie, donc ça lui va très bien. C'est des ponctuations. Elle cherche en fait des aventures, hein, simplement, mais des aventures très ponctuelles, très courtes. Qui lui permettent de se donner la sensation d'avoir des relations,
oui, et d'exister.
De se sentir quand même vivre, de sentir son corps quand même, même si c'est uniquement sexuel. Oui. Et voilà, elle a l'impression pendant quelques minutes ou quelques heures, en tout cas, d'exister ou de se sentir exister.
Alors,
parce
d'ailleurs,
que sinon,
vous avez...
elle est totalement anesthésiée.
Oui. Oh, vous donnez à ce bar le nom de Blue Velvet.
Oui.
Moi, j'ai pensé à ce film de David Lynch,
oui.
Hein, qui est un beau film, ténébreux,
oui.
Énigmatique,
oui, oui.
Bourré de symboles.
Oui.
Et je me suis dit, oui, ça va peut-être avec le personnage aussi.
Ça va avec le personnage, oui.
Vous
oui.
y avez pensé.
Oui.
Je me disais que vous auriez pris peut-être la... comme pause musicale,
oui.
Ce titre.
Non, je n'y ai pas pensé, vous voyez. Mais c'est vrai que oui, non, je n'y ai pas pensé.
Alors, elle-même, elle héberge également une fille aussi paumée qu'elle. Pourquoi ? Pourquoi ? Une fille qui...
Elle rencontre quelqu'un dans ce café et effectivement, quelqu'un d'aussi paumé qu'elle, voire plus paumée qu'elle même, plus jeune aussi, et donc elle l'héberge de façon très épisodique, hein, c'est-à-dire Violette en fait va et vient, hein, elle est encore plus libre on va dire qu'Angèle.
Oui, elle a également une vie noctambule.
Hein, elle a une vie noctambule, oui. Voilà, c'est une artiste qui est méconnue.
Mais elle a un intérêt justement, elle.
Angèle.
Oui. Non, Violette. Elle a la photo.
Oui, Violette, elle a cette fibre-là, en fait. Elle aime faire de la photo, mais elle galère, hein, simplement. Et c'est aussi grâce à Angèle qu'elle va finalement arriver à trouver sa voie, puisque elle la photographie à un moment donné dans le roman, juste avant qu'elle parte en Haïti.
Aux grandes dames d'Angèle, d'ailleurs, qui
ne le souhaite pas, qui refuse de voir son image comme ça exploitée, enfin, en dehors de ce qu'elle-même peut ressentir. Et pendant qu'Angèle se raconte, ce qui arrive très rarement aussi, elle se raconte à Violette, parce que Violette a su poser les bonnes questions, et Angèle était mieux disposée à ce moment-là. Et en fait, elle va continuer à la prendre en photo, et toutes les deux vont... Angèle va y trouver une sorte de d'apaisement, et Violette va trouver quelque chose qui ressemble à ce qu'elle a envie de faire de la photo, c'est-à-dire photographier les gens pendant qu'ils se racontent.
Voilà, alors son métier à elle, c'est logisticienne, ça ne la comble pas.
Non,
visiblement.
Ça la comble pas, mais ce n'est pas valorisant, mais ça lui convient très bien, puisqu'il faut pas réfléchir, faut ranger les choses dans des cases, et puis mais c'est quelque chose qui lui va, ça lui vide la tête.
Elle n'a rien à remettre en question.
Non.
Alors, on la trouve dure. Bon, elle est égoïste, hein, on le sent. On s'explique petit à petit pourquoi. On va en parler, bien sûr. Hein. Très auto-centrée, les autres n'existent pas. Sont même des objets, même dans ses relations physiques avec les autres. Vraiment, c'est sans affect, sans.
Oui, elle les prend, elle les jette. Hein.
Oui.
C'est vraiment sans affect.
Oui, la consommation. Elle fait même mal, vraiment, à ceux qui l'aiment.
Bien sûr.
C'est vraiment bon. Alors, il y a une chose, c'est qu'elle ne fait aucun effort, elle ne fait pas semblant.
Non, ça, on ne peut pas lui reprocher, effectivement. Elle ne fait pas semblant. Elle n'a pas envie elle n'a pas envie d'avoir de sentiments. Voilà. Elle ne veut pas ressentir elle ne veut plus ressentir ça. Elle a ressenti beaucoup de choses très positives quand sa fille est née, malgré le fracas là aussi dans lequel elle est arrivée,
on va en parler, bien sûr.
Et le drame qui s'en est suivi.
Cool,
mais elle a quand même ressenti l'amour que peut porter ou que peut avoir une mère pour pour ses enfants. Ça, elle l'a ressenti très fortement malgré les circonstances. Et comme elle en a énormément souffert, puisque sa fille, derrière, effectivement, n'a pas survécu. A vécu uniquement 15 jours seulement. Elle a tout refermé et elle ne veut plus être blessée. Donc, en fait, elle rejette toute personne qui pourrait ou qui s'approche de trop près et qui a des sentiments pour elle.
Alors, en fait, oui, elle fuit. Et justement, finalement, on parlait de la photographie pour son amie Violette. Elle, c'est la course. Et elle dit, partout le matin, par tous les temps, je partais courir. Ça m'a sauvée, dit-elle. Je m'y perdais, je développais toutes sortes d'idées fantasques contre nature. Je jouais d'autres scènes. J'avais l'esprit clair. J'ai beaucoup fantasmé sur moi, sur mon quotidien, sur mon travail. Je changeais de vie à chaque course. J'ai mûri. J'ai su que pour survivre, il fallait bouger, etc., etc. En fait, survivre, il fallait bouger, mais pas vivre. Elle n'a pas dit le mot vivre, justement.
Elle a dit survivre, oui. Vivre, je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire. Survivre, ça va au-delà. C'est-à-dire, elle, effectivement, par le biais de la course, qui est quelque chose de difficile. La course à pied demande beaucoup d'efforts, demande physiquement, ça fait
sûr.
Mal au corps aussi, hein, quand on court. Et cette survie, en fait, elle la voit comme quelque chose vers... Elle sent bien qu'elle doit aller vers ça, mais sans trop savoir effectivement comment y arriver. Voilà, tout ce qu'elle perçoit, c'est que quand elle court, donc elle, quand elle est dans ces moments d'oubli et dans lesquels elle développe d'autres univers que celui dans lequel elle patauge, elle sent bien que voilà, il y a des choses qui sont possibles, quoi. Il y a des ouvertures, mais sans trop savoir effectivement comment, quand, par où prendre, et voilà. Oui. Mais elle voit bien que oui.
Oui, alors justement, elle se croit lucide. Elle est lucide sur ses actes, sur ses comportements, mais pas sur les raisons, pas du tout.
Non,
elle va mettre en avant la mort de sa fille, on va en parler, parce qu'effectivement, rien de plus douloureux que la mort d'un enfant, c'est certain. Mais comme elle dit, elle est embourbée dans son chagrin. Elle a dit, je suis embourbée dans mon chagrin. Et justement, ceux qui disent qu'ils se connaissent bien souvent ne se connaissent pas vraiment. Hein. C'est trop douloureux de se connaître. Alors, le drame de cet enfant que vous avez évoqué, elle en parle dans la page 77. Si vous voulez peut-être lire un extrait en vous arrêtant à « Oui, la mort d'un enfant en fait partie ». Page 77.
Léa avait 15 jours quand le cathéter planté dans son bras a provoqué une infection. Elle a été transfusée, son sang vidangé et remplacé. On m'a écartée, je me suis morfondue dans le couloir. J'ai fini, assise par terre, à guetter le moindre mouvement suspect, la moindre agitation derrière la porte qui me séparait de la grande salle des soins intensifs. Rongée par l'impuissance, démunie. J'étais nue sous la pendule qui égrenait les minutes, attendant qu'on veuille bien venir me chercher. Les enfants, c'est le drame de nos vies. Une pièce de théâtre réécrite par chaque mère, chaque père, à chaque enfant. Portée par des circonstances particulières à chaque fois. Dans l'improvisation parfaite et donc l'adaptation permanente. Dans le bruit ou le silence le plus total. Avec le pire ou le meilleur. Et surtout sans fin, sauf la nôtre. Mourir sur scène en y abandonnant nos enfants est dans l'ordre des choses. Parfois, l'ordre est dérangé et les choses ne se passent pas selon les codes de bonne conduite. On dit que c'est ce qu'il y a de pire de perdre un enfant. Je ne sais pas, moi, établir le classement des pires événements qui peuvent jalonner une vie. Fixer une hiérarchie dans la monstruosité me semble assez malhonnête. La liste des trucs affreux qui arrivent tous les jours est longue. Et chaque truc affreux est chassé par le suivant, sans qu'on ait même le temps de s'y attarder. Et ça nous arrange assez, au fond, de ne pas avoir à nous arrêter pour contempler les dégâts. Quand ils nous éclaboussent directement, on met au point toutes sortes de subterfuges pour y échapper. Il y a peu d'événements qui nous touchent vraiment, qui font réellement mal et pour longtemps. Oui, la mort d'un enfant en fait partie.
Alors, je vous propose, vous m'avez proposé, pardon, comme pause musicale, un gospel, Gospel Walk, s'intitulant Reborn, et c'est la chef de chœur qui s'appelle Didi Daniel.
C'est ça, tout
d'accord.
À fait, qui voilà. Est haïtienne. De...
D'accord, nous l'écoutons.
This morning with
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Je reprends mon entretien avec Elisabeth Rollin, qui a écrit le roman « Voir ailleurs qui je suis », un roman aux éditions Passiflore. Alors, voilà, nous avons parlé de la mort de cet enfant, et on sait que c'est un drame, la perte d'un enfant si peu connu, finalement, puisque cet enfant n'a vécu que 15 jours. En fait, on peut se demander si, dans le fond, elle était prête pour être une mère. Alors, est-ce que ça aurait été peut-être un tuteur, enfin un projet, quelque chose qui, sur lequel elle se serait reconstruite, mais était-elle prête?
Telle qu'on la voit dans le roman, effectivement, on se dit non, elle n'était absolument pas prête pour effectivement avoir un enfant. Mais est-ce qu'on n'est jamais prêt pour avoir un enfant?
Absolument.
Voilà, oui. Donc oui. Je crois qu'effectivement...
On peut se poser la question. Toujours est-il que cette blessure, effectivement, la rend vulnérable. Moi, je dirais encore plus vulnérable parce que elle était avant.
Oui, elle était avant, puisqu'elle a quand même, elle est aussi marquée, puisque dans son enfance, son jeune frère est aussi décédé. Et elle explique qu'elle allait sur la tombe de son frère avec sa mère. Elle était plus petite et voilà, elle voyait ça d'un peu loin. Elle voyait sa mère certainement dire des prières et c'était quelque chose d'assez intrigant pour elle mais qui l'a aussi profondément marquée. Elle explique, elle raconte un peu sa jeunesse, qui est quelque chose de tout à fait dans la norme. Hein. Elle n'a pas été malheureuse, elle n'a pas été plus maltraitée ou quoi que ce soit. Elle a eu une enfance neutre, on va dire, assez lisse.
Moi, et pardonnez-moi, c'est vous l'auteur.
Oui.
Moi, lectrice, je ne l'ai pas vue dans la norme parce que j'ai vu qu'elle n'existait pas aux yeux de ses parents.
Elle était une enfant un peu... Elle était la troisième de la fratrie. Donc avec un des enfants donc, qui avait disparu... Et sa mère en a certainement gardé aussi une blessure hein, de tout ça.
Parce qu'elle vous parlez de l'indifférence des parents.
Oui, c'est vrai. Elle a grandi dans un milieu agricole. Ses parents travaillaient beaucoup. Oui, c'est vrai qu'effectivement, elle a grandi un peu toute seule. Quoi. Voilà, elle s'est faite un peu toute seule. Elle est très observatrice, un peu en retrait, toujours.
Oui,
elle
a et toujours finalement, jamais valorisée.
Jamais valorisée, mais elle pensait pas être malheureuse, en fait. Parce qu'effectivement, ces actes d'amour qu'on peut recevoir de nos parents, c'est vrai qu'elle ne les a pas forcément eus dans son enfance. Mais ça ne l'a pas pour autant... c'est pour ça que je dis neutre, en fait, parce qu'elle n'a pas...
Elle n'a pas été battue, elle n'a pas été maltraitée.
Elle a eu une enfance lisse, neutre, sans amour exprimé fortement de la part de ses parents, mais sans non plus de maltraitance ou sans aller jusque-là, de choses désagréables qu'elle aurait pu vivre. Elle est quand même... c'est une enfance
classique, vous voyez.
Pas classique, c'est neutre. Sans haut, sans bas, mais oui, voilà, quelque chose d'assez lisse. Oui.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, elle avait à travers ce que vous écrivez finalement, j'ai l'impression qu'elle a le sentiment de ne pas exister aux yeux des autres, enfin surtout aux yeux de ses parents, c'est les personnes les plus importantes quand on est enfant. Et du coup, elle ne se valorise pas, au contraire.
Non, ça c'est vrai qu'elle se valorise pas.
Voilà.
Elle c'est quelqu'un qui ne se met jamais en avant, qui est toujours secrète. Hein, même toute petite déjà, elle était secrète. Elle reste en retrait. Elle mène sa vie. Elle se débrouille souvent toute seule. Elle fait quand même son chemin. Hein, mais bon, voilà, sans.
Il me semble qu'elle se sent jamais à la hauteur. Qu'elle se sent nulle.
Elle se sent dévalorisée certainement.
Oui.
Ça c'est vrai que c'est le regard des parents qui. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous voyez quand on écrit un roman, on est dedans. Et souvent, le retour des personnes qui l'ont lu, les retours peuvent être très différents en fonction de la personne qu'on a en face aussi, de son ressenti, de ce qu'elle a retenu du roman. Et c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc j'ai ce retour de lecture. Donc sur son enfance, ce sont des choses sur lesquelles souvent on passe assez rapidement et sur lesquelles on s'étend pas. Mais c'est la première fois. Et pour l'auteur, c'est-à-dire pour moi, quelquefois, je n'ai même pas conscience de ce genre de... Vous voyez, c'est intéressant.
Oui, c'est assez... assez classique et chez les écrivains, chez les poètes également, qui disent ah oui, ben voilà, j'y avais pas pensé, parce qu'en écrivant au fil de la plume,
c'est ça. Et on écrit comme ça, il y a des choses qui sont là, mais c'est intéressant parce qu'effectivement ça donne,
ça explique quand même, ça donne
une autre, vision.
Oui, oui. Vous savez, on a parlé des orphelins roumains qui n'avaient pas été battus, mais qui ont été séparés de leurs parents et qui étaient vraiment très profondément atteints. Et Boris Cyrulnik en a parlé. On en parlera d'ailleurs si on a le temps, parce que le temps passe très vite là. Voilà. Donc pour moi, ça a été cette histoire d'enfance. Ça a été quand même d'une part, elle venait, il y avait cet enfant mort qui avait quasiment son âge et pour laquelle la mère avait une dévotion visiblement. Et puis cette absence d'intérêt d'encouragement dans ce qu'elle faisait, parce qu'elle était finalement, elle travaillait pas mal,
elle se débrouillait, voilà, elle s'est débrouillée.
Elle s'est repliée quand même sur elle-même.
Elle s'est repliée, mais ça l'a pas tétanisée pour autant. Vous voyez, elle a quand même suivi son petit chemin, elle a suivi ses études, elle y est arrivée. Mais finalement, la seule qui a posé, c'est pour ça qu'elle a cet attachement à Ellie, donc son amie, la première qui a posé un œil sur elle et avec laquelle elle s'est sentie en confiance, c'est Ellie, parce qu'elle a su effectivement l'écouter, s'intéresser à elle, et ça c'était effectivement tout à fait nouveau pour elle, et c'est pour ça qu'elle a cette amitié très profonde pour elle, pour Ellie.
Alors justement, mais Ellie, pourquoi l'aime-t-elle si mal? Elle la malmène même d'une manière. Je trouve que Ellie est vraiment une personne extraordinaire pour supporter à quel point c'est toujours, et toutes les formes, les signes d'amour ou d'amitié qu'elle reçoit, c'est toujours à sens unique. Elle n'en donne pas, elle. Hein. Y a pas de... C'est pour ça que je reviens, moi, à l'enfance. Cette incapacité à donner elle-même, ça signifie qu'elle a peu reçu.
Elle a peu reçu. Oui, oui, mais ça, de toute façon, c'est effectivement la vérité. Elle a peu reçu et du coup, elle s'est mal donnée, forcément, derrière.
Oui,
voilà.
Et à un moment donné, d'ailleurs, elle va le dire, parce qu'elle a de belles rencontres. Il y a Grégoire.
Elle est très bien entourée, finalement.
Elle est très bien entourée, mais par exemple, elle dit, en parlant de lui, s'il veut construire, il part. Oui. Elle ne veut pas, dans la durée, elle ne veut pas
elle
d'attachement.
Ne veut pas s'attacher. Voilà. Oui. Ça, c'est pour elle. Oui. Elle a senti... quand sa fille est née, elle a senti ça pointer. Vous voyez, l'attachement viscéral à quelqu'un qu'on a porté.
Et en même temps, elle dit qu'elle n'est même pas capable d'avoir un enfant.
Oui, elle le dit, mais quand elle était là, dans son ventre, et quand elle l'a vue pour la première fois, et dans les circonstances très particulières dans lesquelles elle est arrivée sur cette terre, Léa, mais quand même elle a commencé à ressentir ces sentiments puissants entre une mère
et
son enfant.
Mais elle s'en méfie.
Et elle s'en méfie maintenant. Elle a tellement souffert. On lui a donné quelque chose qui lui a permis de commencer à ressentir des choses fortes que peut-être elle n'avait jamais ressenties auparavant. Et puis on lui a repris. Léa a disparu. Ça a duré 15 jours, c'était très court, mais pendant ces 15 jours-là, il s'est passé beaucoup de choses. Elle le dit, c'est des sentiments mélangés. Mmh. Mais quand même, au milieu, il y avait des choses très, très, très fortes, très, très dynamiques. Voilà. Et il y avait des choses très difficiles. Mais qui
venaient en plus sur quelqu'un d'écorché vif.
C'est ça. Mais quand même, cet enfant est devenu son univers, quoi, pendant 15 jours. Et je crois qu'elle était prête à devenir mère. Vous posiez la question tout à l'heure. Elle était prête à ce moment-là, peut-être, à s'engager sur ce chemin qui... Un chemin tellement...
Alors, excusez-moi, mais vraiment, Elisabeth, mais je vous dirais, je pense que sa douleur est réelle, mais ensuite, à son comportement, elle donne cette excuse-là. Oui. Et moi, je pense que c'est encore beaucoup plus profond que ça.
Oui, oui, ça vient de plus loin.
Ça vient de beaucoup plus loin.
On dit toujours que les mots viennent de
l'enfance. On dit tout se joue avant 5 ans, il paraît. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais enfin, peut-être que le nœud du problème est là. Elle n'a pas été vraiment aimée et elle ne s'aime pas, finalement.
Non, elle ne s'aime pas. Non.
Ouais. Elle ne peut pas s'aimer. Et elle parle, quand elle parle de l'amour, elle a une phrase, elle dit « Chez moi, je ne savais pas démarquer mes territoires, je mélangeais. Aimer, c'était donner son corps Pour le reste, je ne l'avais pas appris.
Oui. Mmh. Oui, oui.
Voilà, elle n'a ni les mots ni les gestes.
Elle est froide, hein. C'est vrai qu'elle est très sèche dans ses sentiments. Et c'est vrai qu'elle associe l'amour au don de son corps uniquement.
Uniquement, oui. Mais je pense qu'elle a le sentiment qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Et je pense encore... Vous allez me dire que c'est une idée fixe. Hein. Ah oui, maintenant votre livre m'appartient. Hein. C'est bien
exactement.
Connu. C'est bien connu.
Bien.
Oui, alors il y a un déclic quand même. Et justement, c'est intéressant de voir cette vie complètement stérile qui va petit à petit évoluer. Et ça, c'est vraiment très émouvant de voir qu'il y a des rechutes quand même. Hein, mais il y a un déclic, il y a un lieu. Et il y a une personne qui se nomme Hélène et qui est chargée d'une organisation humanitaire. Bon, elle va commencer dans un lieu pas évident, en Himalaya. Je pense que c'est après un tremblement de terre dont on a beaucoup parlé, hein, en Inde, oui. Mais elle y transporte, je dirais, moi, ses scories. Elle a encore...
Oui. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Elle part avec tous ses bagages, hein, donc qui sont lourds et sans trop savoir, c'est sa première expérience humanitaire et elle sent confusément quelque part qu'elle peut apporter quelque chose aux autres parce qu'elle-même a souffert, c'est ce qu'elle dit. Hein. Alors c'est un peu confus. Hélène la booste et la rassure aussi. C'est un personnage effectivement très important. C'est vrai, ça va être une figure pour elle apaisante. Et Hélène lui demande de d'écrire un engagement, quelque chose de voilà pour elle. Hein, d'abord, pas pour les autres, mais pour pour poser les choses, parce qu'elle la trouve un peu agitée quand même la première fois.
Oui, alors c'est d'ailleurs étonnant qu'elle l'envoie. Hein, oui. On peut se poser la question. Mais justement, ça ne marche pas. Enfin, ça marche aussi parce qu'elle est efficace, elle est intelligente. Elle fait son job, mais
elle reste essentiellement dans un entrepôt en Inde.
Oui,
hein. Elle n'est pas encore vraiment sur le
terrain. Oui, un peu comme ce qu'elle faisait en France, finalement.
Exactement.
Et
oui.
Elle dit, j'aurais pu lui dire, elle parle de celui avec qui elle travaille, que je n'aimais pas ce pays, cette masse sans cesse en mouvement, que j'étais au bord de la nausée à l'idée de repartir dans un camp de réfugiés, que j'avais usé mon corps contre le sien pour tenir. Je revoyais ces hommes, là-haut, impuissants, assis, regardant passer des heures impassibles, sans aucun geste d'affection pour leurs femmes ou pour leurs enfants. Je voyais leurs yeux noirs, pourtant emplis de douceur et de bonté. J'avais été soulevée, encore un haut le cœur, mais il allait à Thomas. Je m'étais levée, etc. Elle ne se sent pas bien, elle ne supporte pas cette misère, cette inaction des personnes qui sont anesthésiées. Il s'est passé un drame dans leur pays, dans leur famille, etc. Elle revient, et là, en fait, elle l'a fait, donc, et Hélène va lui faire encore confiance.
Oui.
Alors, si vous voulez bien, on va faire une pause musicale, et cette fois-ci, nous allons écouter un chant haïtien, puisque c'est là que vous allez nous emmener. Donc, il s'agit de Lynn Michel... le titre c'est Down, DAWN, et c'est un chant haïtien.
Tout à fait.
En al nan mon yo, côté pied ka touche ciel là. Côté famille rencontré pour mande pou ki. Aucun petit tout moun sa yo pou tèt bêtise les hommes en barrage la nati. Vini ti moun, vini. On prend day. Pas je peux quand même casser. Tout crié dans tes guettes suspens. Tout entièrement que t'as fini de chanter. Malgré ça, nous pouvons tourner la caille. Vini, vini, Timon. On prend day.
Yeah.
Ouais, ça c'est tu connais. Il a demandé pour me garder soleil là. Pour me garder ça avant et pour le dire. Pour me kembe la pluie dans tes mêmes. Pour me pouvenir là aussi. Quand ça n'a ouvert, quand y'a flet, l'on a gêné que si ce bon fait tempête. Cimetière, si ce bon fait la boue. Et puis la ligne n'a qu'à ouer nous tout. Vini, vini, Timmy, on pente.
On souhaite se voir la dernière fois nous prenons gros primates, dernière fois nous crier, dernière fois nous trembler, nous bouler, nous neiller.
Vini, vini, Timon. Enchanté,
enchanté.
Vini, vini, Timon. On reme, on reme, on reme. Emmanuel, petit frère.
Benji, joli cœur.
Valérie Tartieu.
Gary, Saint-Germain.
Murray, Lustin, Junior.
Georges, Anglade.
Saint-Amise, petit frère.
Gina, Borsena.
Myriam, Merlé.
Alex, Gervais.
Magali, Marcelin.
Joubert, Charles. Toutes Jean, toutes Marie, toutes familles.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, je retrouve Evelyne Roulin.
Elisabeth.
Pardon, Elisabeth, oui, Emeline, c'est celle qui vient de chanter. Elisabeth Roulin, pour son ouvrage « Voir ailleurs qui je suis » aux éditions Passiflore. Oui, Hélène, cette organisatrice donc d'aide humanitaire, va envoyer notre personnage, ce personnage central, Angèle, va l'envoyer en Haïti. Et je pense que c'est peut-être là que tout va se décider. Il faut dire que c'est là où les choses sont peut-être aussi les plus terribles. C'est un pays qui a souffert, qui souffre encore. Et là, c'est après le chaos du tremblement de terre. Oui. Et en fait, elle s'investit enfin, vraiment.
Alors
oui, pardon.
Entre sa première expérience en Inde et l'envoi et son départ pour Haïti, il y a eu d'autres missions, hein,
oui,
qui n'apparaissent pas dans le roman, mais elle a eu quand même le temps.
Elle a l'expérience,
voilà, elle a quand même un peu plus d'expérience. Il s'est écoulé 2 années. J'ai plus exactement le timing en tête, mais en gros 2 années. Donc elle a été en Afrique, elle a eu d'autres expériences. Et si Hélène l'envoie en Haïti, c'est qu'elle la sent prête, c'est qu'elle sent qu'effectivement elle a un peu mûri quand même, et du coup son choix se porte sur elle, parce
D'accord.
qu'ils ont besoin des logisticiens, et donc elle est quand même... elle est envoyée donc sur ce et avec les équipes d'urgence en fait elle fera partie des premières à
et elle arriver. Dit on devient un maillon indispensable, on ne doit pas céder, en face ils survivent, on les y aide. J'ai reçu des sourires par milliers, des merci, des caresses, et je les ai rendus. J'ai tenu des mains, allongé des blessés, recensé les morts. J'ai chanté les berceuses, j'ai hurlé pour amener le calme, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai senti. Jamais je n'étais aussi éveillée qu'au milieu de cette cacophonie. Attentive au bruit, au mouvement des foules, au vrombissement de l'avion qui décollait, aux cris de douleur, aux rires aussi, les rires, il y en a toujours. Je cherchais du regard d'où il venait, et tout ça glissait, je ne sais pas où ça partait. Quand je m'écroulais après une maigre toilette, je ne pensais à rien, et le lendemain, au briefing de 7 heures, c'était comme s'il n'y avait pas eu déjà 8 jours identiques. Tout d'un coup, elle donne. C'est nouveau, ça.
Alors, c'est pas tout d'un coup, c'est ce que je disais. Voilà. Mais c'est vrai que elle s'est adoucie. elle s'est certainement apaisée. Ça va. C'est, alors, il y a encore des moments difficiles et on verra par la suite que c'est effectivement elle n'est pas encore tout à fait prête à laisser les autres totalement s'approcher d'elle. Mais quand même, effectivement, elle a appris à donner. Mais ce qu'elle sentait confusément quand elle courait, qu'elle avait ça en elle finalement, qu'elle était capable de d'apporter quelque chose aux autres, d'abord de par sa profession simplement, mais aussi de façon plus intime, qu'elle était capable de faire ça. Et donc ses missions précédentes l'ont confortée dans cette voie-là. Et en Haïti, effectivement, clairement, elle arrive, c'est le chaos. Hein, elle se le prend en pleine figure parce que c'est une urgence. Donc les personnes qu'elle croise qui sont là sont totalement démunies, n'ont plus rien, sont totalement désemparées. Et ils comptent sur elle. Donc effectivement, il y a des mains qui se tendent, il y a des gens qui réclament, il y a de la souffrance, il y a des morts, beaucoup. Et là, ben, il faut agir, quoi. Donc au milieu de tout ça, il ne faut pas se poser de questions, oui. Il faut agir, il faut avancer.
Mais en même temps, il y a les sourires, les caresses.
C'est ça, et du coup, elle, dans sa difficulté d'être, finalement, ça lui permet aussi de relativiser. C'est de ça dont elle avait aussi besoin, de se confronter aussi aux autres et au malheur des autres. Et du coup, voilà, c'est aussi cette confrontation qui lui permet de relativiser sa peine et de la partager, même si elle ne s'exprime pas et même si elle n'est pas là pour parler d'elle.
Mais voilà. Là, dans votre ouvrage, en tout cas, on sent un changement. Un changement, très nettement. Et à un moment donné, elle a même une interrogation sur la spiritualité. J'étais athée la plupart du temps, la religion et ses dérivés me faisaient sourire. Et là, elle voit une femme qui prie. Elle était très jeune, très belle aussi. Elle semblait guidée par autre chose, parlons une langue obscure aux intonations rock. Je l'ai eu sous les yeux tous les jours dans la cour de l'hôpital. J'y croyais moi aussi. Assise aux côtés de Sean, je l'ai observée souvent, j'ai pensé à Léa, aux questions posées après sa mort, aux signes que j'ai cherchés. Voilà.
Oui, c'est une prêtresse vaudou, en fait, qui est dans la cour de l'hôpital et qui est très entourée. Elle voit que les gens viennent la voir et qu'il semble y trouver un apaisement aussi. Donc c'est beaucoup de prières et effectivement elle se pose des questions puisque elle a souffert de solitude après la mort de sa fille. Elle a souffert de solitude. Elle s'est retrouvée, elle s'est enfermée avec sa peine et elle n'a laissé personne s'approcher. Donc effectivement, c'est une solitude terrible parce que dans ces cas-là, on a a priori,
bien sûr.
Voilà, enfin, on peut comprendre. Et donc du coup, elle se rend compte que oui, il y a d'autres personnes qui peuvent trouver du réconfort dans.
Alors, on pense, évidemment, il va y avoir aussi ce grand attachement qu'elle va éprouver pour deux enfants. Je dis Sean, je ne sais pas comment à Haïti on le prononce.
Je dis Sean aussi.
Oui, Sean, et cette petite fille qui, au départ, n'a pas de nom, car elle ne parle pas, traumatisée probablement, Lonnie, qui est mutique, donc, et elle va être bouleversée. Et finalement, elle va pleurer avec eux, elle va être heureuse en les tenant dans dans ses bras. Alors là aussi, c'est nouveau, on va pas avoir le temps de lire, Elisabeth, je suis désolée, mais le temps passe très vite. C'est nouveau et on sent que c'est vraiment une renaissance. Et là, j'ai pensé, moi, à Boris Cyrulnik. J'ai pensé vraiment à ce mécanisme que l'on peut voir chez les blessés de la vie. D'abord, il y a le déni. Et puis après, il y a des facteurs essentiels dans la résilience. Hein. On le dit, il y a le soutien, ça a été Élie, et puis ça a été Grégoire et Hélène.
Malgré elle.
Parce que le soutien, c'est ça qui est important. Et en fait, on voit qu'il y a une étincelle, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a un revirement. Elle va repartir, évidemment. Triste, mais avec des projets. On n'en parlera pas, on ne va pas dire si c'est ça aboutit ou pas. Elle va rejoindre Grégoire, qui est un homme solide. Elle va dans les Pyrénées, qu'on connaît bien.
Dans la vallée de Bethmale.
Voilà. Et Grégoire qui, lui, fait des projets, qui est dans l'action, oui. qui est dans la vie. Les pieds sur terre, oui. Quelqu'un de solide.
Il avance, Grégoire, oui.
Oui. Voilà, exactement, il avance et on aimerait qu'elle avance avec lui, mais ça, on ne le dira pas. Elle a dit, j'ai su que Grégoire serait un de mes repères.
Oui.
Bon, en tout cas, elle a beaucoup de repères, je trouve. Elle a beaucoup de chance, finalement. Parce
oui, tous les personnages qu'elle rencontre, finalement, lui apportent quelque chose. Et dans la vie, c'est pas toujours comme ça, mais on a tous comme ça des personnes phares, quoi, qui sont importantes, mais quelquefois qu'on a croisé très peu de temps, c'est une vérité. Enfin, voilà, quelquefois il suffit d'un mot, d'une parole qui nous permettent de prendre conscience de certaines choses ou d'en écarter d'autres. Enfin, mais on fonctionne tous un peu de la même façon. Et c'est vrai que tous les personnages qu'elle rencontre dans le roman apportent leur pierre à l'édifice de la reconstruction d'Angèle.
Et elle finit par dire, après Léa, après Élie, après Thomas, après Grégoire, j'ai acté que je foirais incontestablement, toutes mes relations. Je m'acharnais à combler le vide en moi et... principe des vases communicants, je le crée autour de moi. Mmh. Elle réalise ça.
Mais il s'accroche quand même. Il n'y en a aucun qui a quelque chose d'attachant malgré tout.
Oui.
Et donc personne ne la laisse tomber malgré son sale caractère et ses mauvais comportements. Et quelquefois, elle dépasse largement les bornes. Mais malgré ça, ils sont là, ils restent.
Voilà.
Et ils cherchent.
Et on sent que les choses évoluent. Voilà.
Et heureusement, parce que...
Oui, heureusement, comme vous dites. Bon, ben, Elisabeth Rollin, ben voilà, ça, le temps passe très vite. Je vous remercie d'être venue dans ces conditions un peu particulières liées à la pandémie. Oui. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du livre d'Elisabeth Rollin, « Voir ailleurs qui je suis » aux éditions Passiflore.
Je peux parler vite, rapidement des éditions Passiflore. C'est une toute petite maison d'édition donc, qui se situe à Dax, dans les Landes. Voilà, donc ils se battent tous les jours. Elle se bat parce que Patricia est toute seule maintenant, mais elle se bat tous les jours pour
donc il faut aider.
Oui. Il faut aller en librairie, il faut acheter des livres, il faut lire.
Entendu. Message entendu. Merci. Au revoir.
Au revoir.